quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra, que entre la tierra y el cielo, nunca viera suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas, deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el peso de la balanza.
Si vous pouviez revivre n'importe quel épisode de l'Ancien Testament, ce serait lequel? Même si d'un point de vue de l'histoire des langues, c'est complètement erroné, moi, à titre personnel, et j'ai toujours été un peu fasciné par celui de la Tour de Babel. Pour rappel, dans la Genèse donc, les êtres humains sont une sorte de communauté linguistique homogène. Ils parlent la même langue, et peu après le déluge, alors que justement ils sont tous unis, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent. Là, ils entreprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet rivaliserait avec les cieux de Dieu. Le but, c'est de se faire un nom pour l'humanité, et alors qu'ils opèrent comme ça tranquillement leur projet, Dieu brouille leur langue afin que tous les ouvriers du chantier ne se comprennent plus, ne puissent plus se synchroniser et les dispersent sur toute la surface de la terre. Ce serait comme ça que, dans la Genèse, serait née la pluralité et la diversité des langues, qui est donc un fardeau divin. Et donc, faute d'une possibilité de se coordonner sans pouvoir se parler, et bah la construction cesse et la ville est laissée à l'abandon et nommée Babel. Évidemment ici, on commentera pas la violence de Dieu de l'Ancien Testament, qui, après avoir causé le déluge, détruit tout simplement les espoirs des hommes d'avoir des projets communs, et l'idée qui veut que la diversité des langues soit une punition divine. Mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que nous vivons dans le monde post-Babel, où la diversité des langues fait désormais la richesse et la beauté de l'espèce humaine, tout comme sa diversité de culture et de tradition. Et dans ce monde, au moins deux questions majeures se posent à chaque être humain qui est en capacité d'y penser. D'abord, quelle est la place du sacré dans nos vies actuelles, dans votre vie, dans ma vie? Et si on en a envie, comment recréer justement du mysticisme, du spirituel dans son existence? Et la deuxième question, elle est bien sûr tournée vers l'avenir, que peut-on faire si on aime la créativité humaine face à une technologie qu'on annonce comme très inquiétante, à savoir l'intelligence artificielle? Comment voyons-nous ce futur avec ce bouleversement en cours? Et justement, un album sorti en cette fin d'année 2025, le 7 novembre, prend en charge pleinement ces deux questions. Il s'agit bien sûr du Lux de Rosalia, nouvel album de la star catalane. Bienvenue dans Exégèse, je suis Romain Maillot et aujourd'hui on va donc parler de diversité des langues, de sacré et d'IA, le tout en se plongeant dans un des albums les plus importants de l'année, le dernier projet de la pop star espagnole Rosalia.
Oh, fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Till you love me.
Alors c'était donc Bergen, un des singles et morceaux marquants de l'album de Rosalía, en featuring avec donc Björk, que vous avez sans doute reconnu, et Yves Tumor. Et vous êtes de retour dans Exégèse, où on décortique le très religieux album de Rosalía, Lux. Alors, pour ceux qui ne sauraient rien sur l'album, pourquoi religieux? Et puis d'abord, c'est qui Rosalía? Rosalía est donc une pop star catalane, et elle a vraiment subi une explosion en popularité lors de son précédent album, Motomami. C'est un changement complet de direction artistique pour elle sur cet album, puisque la quasi-nudité de l'opus précédent est remplacée dans la pochette par son corps complètement enveloppé dans un tissu très moulant, contraignant, et surtout d'un blanc lumineux, évidemment rapprochant de la chrétienté et de la religion. Parce que Lux, c'est vraiment un album religieux. Déjà la pochette donc, avec cette sobriété très catholique, cette blancheur et cette coiffe de nonne que Rosalía aborde aussi dans les nombreuses interviews. Mais toute la direction artistique autour du projet va dans ce sens, avec des panneaux publicitaires représentant des crucifix, des tenues adaptées pour les médias, etc. Mais surtout, Lux est religieux par son contenu. Et vous allez le voir, comme dans la Tour de Babel, tout commence par la linguistique. Dans Lux, Rosalía chante en 14 langues différentes. 12, plus le français sur un morceau disponible en physique uniquement, et le catalan à certains moments. Ces langues n'ont évidemment pas été choisies au hasard. Déjà, elles évoquent des influences claires pour la musique de Rosalía, sa Catalogne natale, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais on retrouve aussi du japonais, de l'allemand, de l'arabe, du mandarin, de l'hébreu, de l'ukrainien, mais pas de russe, et c'est à souligner, et des langues locales, le sicilien et le catalan. On est clairement dans la représentation de la diversité linguistique actuelle, avec toutes les langues majeures de notre époque, et un focus européen, voire judéo-chrétien, tout logique pour Rosalía, qui a depuis toujours parlé du sacré dans ses albums. Sauf que, vous allez le voir, cette décision artistique de choisir énormément de langues est plus qu'un simple jeu dans les paroles. Il y a un autre but, beaucoup plus profond encore. L'idée, c'est que chaque langue est adossée ou permet d'évoquer une figure religieuse. Chaque fois ou presque que Rosalía chante dans une autre langue, c'est pour faire référence à une sainte, que l'artiste a choisi avec précaution dans les histoires des religions monothéistes. Mais alors, qui sont ces saintes? Pourquoi Rosalía les a-t-elle choisies? C'est ce que nous allons voir juste après l'écoute de Porcelana, haut extrait de son album.
Mi piel fina, la porcelana, rota la esquina. Mi piel fina, la porcelana, y de llamana. Luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor, y el dolor siempre vuelve a aparecer. A ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho. Dentro mi corazón y mi cerebro, como un cubata cae en mi garganta. Se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam nil, ego sam lux mundi.
Ego sam lux mundi.
Es que, 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 es que. No I do fe 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 fe.
Traje algo pa' que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigreaje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar, yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, pa' bien o para mal. Transformarte
Bibón antes de te adoro. 気にされる前にヤバいやつって思うかな。持って生まれた才能なの、持って生まれた才能なの。私はカオスの女王。だって神様が決めたこと、だって神様が決めたこと。
Traje algo pa que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tiraje. Traje algo que te pueda coraje. En tu lore falta viaje, pero a ti te sobra equipaje.
So what kiss 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 kiss. No way you feel, 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 feel.
Belle fin donc pour ce morceau Paul Celana où on entend de l'espagnol, du latin, même du japonais, et où Rosalia évoque Rionen Genso, une religieuse japonaise. Paul Celana est un très bon exemple du fonctionnement de cet album, qui lie donc le linguistique au religieux, le tout mêlé de différentes symphonies avec tous les instruments qu'on entend. Mais alors, comment Rosalia a-t-elle choisi les saintes qu'elle voulait mettre en avant sur Lux ? Vous êtes toujours sur Exégèse et je vais donc répondre à cette question en me basant notamment sur le travail d'une journaliste spécialiste de l'histoire religieuse, Sophia Galler, dont je vous invite à suivre le travail sur Insta ou dans ses écrits. Tout sera sur la page de description de Primitive de Exégèse. Alors, le premier point commun entre toutes ces saintes qu'on entend dans l'album, c'est qu'elles sont des saintes et donc pas des saints, pas de figure masculine. Ce qui permet de mettre en avant pour Rosalia certaines saintes plus méconnues, comme Claire d'Assise, qui a été l'élève de Saint François d'Assise, lui bien plus connu dans la culture populaire. L'autre point commun entre toutes ces figures, c'est que les saintes évoquées ici sont des mystiques. Elles ont toutes, à un moment ou un autre, eu des visions attestées, des apparitions qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins guidé leur conduite. C'est pour cela que la sainte française, évoquée sur le morceau éponyme, c'est bien entendu Jeanne d'Arc, la mystique guerrière par excellence. Et sur Bergheim, par exemple, qu'on vient d'écouter, le single de l'album, elle évoque Hildegarde de Bingen, sainte allemande du XIIe siècle, particulièrement impressionnante, puisque abbesse, elle a eu plusieurs visions mystiques, était connue comme une des plus grandes médecins de son temps, était sans doute polymathe et a développé sa propre langue. Elle a laissé d'ailleurs plusieurs traces de sa pensée qui est encore aujourd'hui étudiée dans des livres et poèmes et a même composé plus de 70 chants liturgiques. Typiquement, dans le Martyrologe roman, livre consignant des informations sur les saints de l'Église, on peut lire à son décès en 1179 à l'âge de 81 ans, je cite, « 17 septembre, au monastère de Rupertsberg, près de Bingen en Hesse, en Allemagne, sainte Hildegarde, vierge, qui... experte en sciences naturelles, médecine et musique, exposait pieusement et décrivait dans quelques livres les contemplations mystiques dont elle avait l'expérience. Voilà donc le type de profil que Rosalia a récupéré pour son disque et ils sont tous plus passionnants que les uns que les autres. Je vous invite vraiment à aller les découvrir et à aller vous creuser cet aspect-là du disque si ça vous intéresse. Donc pour son album, Rosalia a cherché des mystiques, des femmes au dévouement et au destin exceptionnel, qui sauront tous nous inspirer par leur parcours hors normes. Je prends un dernier exemple, Rosa de Lima, première sainte du Nouveau Monde, évoquée sur Reliquia. Elle aurait su naturellement lire dès ses 4 ans, sans l'avoir appris. À 20 ans, elle prend l'habit religieux, mais comme il n'y avait pas de couvent dans sa ville, elle serait devenue ermite, passant l'entièreté de sa vie entre la prière et les mortifications. Elle a donc dévoué sa vie au service des natifs américains, des enfants abandonnés et de tous les nécessiteux. Le but est que cela colle avec les thématiques de l'album, tournées vers la question du retour du sacré dans notre vie. Toutes ces figures sont parfaites pour évoquer l'amour divin, la spiritualité en chacune et chacun, et les interrogations que l'on peut avoir à ce sujet. Pourtant, avec le morceau La Perla, où elle parle d'un terroriste émotionnel, on sent que Rosalía a eu une peine de cœur, une rupture qui la pousse vers de plus tristes sentiments. Et l'ennui, c'est qu'avec les saintes qu'on a évoquées jusqu'alors, il est quand même difficile de parler de colère ou de vengeance. Ça ne semble pas cohérent. Et c'est pour ça qu'elle évoque sur De Madruga, Olga de Kiev ou Sainte Olga. Alors, le morceau est avec des paroles en ukrainien qui évoquent donc la sainte. Et cette dernière est née vers 890 et c'est l'image d'une sainte qui est passée de la violence extrême au sacré. Son mari Igor Ier régnait alors sur une région autour de Kiev. Alors qu'il revenait d'une expédition militaire, lui et ses hommes se font massacrer par les Drevliens, un peuple ennemi. Olga prend alors la régence et cherche revanche. On est loin du parcours d'une sainte classique puisque son plan se déroule en trois moments clés. D'abord, elle accueille deux groupes de nobles et de militaires ennemis avec des pièges. L'un finit dans un trou caché sous le sol du château, enterré vivant, l'autre dans des bains chauds où, pensant se relaxer, ils seront enfermés et brûlés vifs. Ensuite, se rendant chez ses ennemis en faisant semblant de vouloir épouser leur prince, elle fait tenir une énorme fête. L'alcool coulant à flot, les Drevliens enivrés ne peuvent lutter face à l'escorte d'Olga, qui massacre près de 5000 hommes avant de repartir à Kiev. Enfin, elle assiège un peu plus tard la capitale ennemie, achevant sa revanche. Et cette dualité de la sainte, Rosalía l'a évoquée en interview, en disant, je cite, « c'est une assassine avant d'être une sainte ». Et c'est justement la sainte parfaite qui correspond au sentiment de vengeance symbolique là, que Rosalía évoque dans l'album, notamment dans De Madruga, que l'on s'écoute donc maintenant.
La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. Me pesa la cadena. De vuelta, ja ne szukają pomsty, pomsta szukaje mnie. Ja ne szukają pomsty.
Voici donc De Madruga, ce morceau aux paroles en partie ukrainienne, mettant en valeur la guerrière et sainte Olga de Kiev, qui se trouve sur l'album Lux de Rosalía que nous analysons aujourd'hui dans Exégèse. En allant donc chercher des mystiques à travers le monde et les époques, on voit bien que sur cet album, Rosalía parle d'un héritage. Elle témoigne d'un passé, d'un patrimoine pluriel et spirituel. Mais ici dans Exégèse, vous venez peut-être d'ailleurs de nous rejoindre en cours, bienvenue à vous. Je voudrais aussi parler du rapport qu'entretient Lux avec le futur, et notamment avec une technologie qu'on entend évidemment partout, l'IA. Parce que Lux est sans doute le prototype d'un album anti-IA de 2025. Rosalía l'a mis en avant d'ailleurs dans sa communication et ses interviews, c'est avant tout un album organique et humain. Humain parce que Rosalía a enregistré avec de vrais orchestres et de vrais musiciens. Et humain parce qu'elle a choisi symboliquement d'y représenter ce qui fait, si une telle chose existe, l'unité du genre humain, nos cultures, nos mythes, nos langues, nos histoires, etc. Humain, enfin, parce qu'elle assure ne s'être jamais servi de l'IA ni pour composer, ni pour mixer, ni même pour écrire. D'ailleurs, elle précise même en interview qu'hormis quelques phrases, c'est bien elle qui a écrit toutes les paroles du disque. On est donc au-delà d'un refus de l'IA, on est même dans un retour à l'organique, au réel, et à l'absence le plus possible de musique synthétique, entre guillemets, sans âme. Et cette dimension humaine revendiquée, même si, évidemment, elle a un nécessaire intérêt marketing, elle permet aussi de sortir de la musique en tant que telle, pour positionner cet album dans l'histoire de l'art. Et sans doute que c'est le premier grand album, au sens de très populaire, à s'opposer frontalement et se distinguer très clairement de l'usage de l'intelligence artificielle. On sait que certaines stars se sont déjà positionnées sur le sujet. Kanye West et Timbaland sont pour, The Weeknd, Playboi Carti ou même Jul ont tous été accusés à l'inverse d'utiliser de l'IA dans au moins un morceau, certains avec plus ou moins de preuves. Et Rosalia est donc contre. Il faut, je pense, souhaiter que la sortie de Lux soit la première date dans une chronologie plus large de refus des IA créatives avec des projets explicitement estampillés sans IA. Le geste de Rosalia, il est vraiment intéressant parce qu'elle est passée par la création pour se positionner sur le sujet. Et ça a sans doute plus d'impact sur le long terme qu'une tribune aux milliers de signataires mais que peu de gens ne retiennent. Qui plus est, il faut, selon moi, que ce soit les pop stars qui se positionnent aujourd'hui sur ce sujet, plus que les artistes un peu moins connus ou de niche. Non pas que leurs avis soient inintéressants, au contraire, chez Primitive on adore défendre justement les artistes alternatifs, indépendants et niche, mais évidemment leur voix porte moins. Et se passer de l'IA lorsqu'on est un artiste plus confidentiel, ça fait forcément moins impressionnant. Au contraire, des gros albums avec des gros budgets promotion qui postuleront qu'ils sont sans IA, où on aura un retentissement plus important dans l'espace public et une exposition plus conséquente de cette question-là. Donc, à mon sens, il est important que les pop stars comme Rosalia nous disent, voilà, prennent parti en nous disant, sont-elles du côté de l'IA ou ne le sont-elles pas? Que veulent-elles faire? Et comme ça, après, nous, en tant qu'auditeurs et auditrices, on pourra choisir. Et je ne dis pas, et je ne pense pas d'ailleurs, que Lux va à lui seul arrêter les IA génératives. Ce serait insensé de penser ça. Simplement, il est possible que presque malgré elle, Rosalia ait ouvert la discussion et la voie à d'autres artistes pour en faire de même. Il n'est pas dit que la musique organique, humaine, triomphe perpétuellement. Mais le geste de Rosalia, s'il est reproduit, permet à minima de tracer une frontière entre l'art humain, organique, et l'imitation, certes très impressionnante parfois, des intelligences artificielles. On pourra au moins, en toute conscience, choisir ce qu'on souhaite promouvoir nous, auditeurs et auditrices, et ce qui vaut le coup d'être aimé, protégé, entendu et partagé. C'était donc Exégèse, présenté par moi-même, Romain Maillot, et je vous laisse sur quelques beaux moments de Lux, le dernier album de Rosalia. À bientôt, même endroit, même heure, dans 2 semaines.
De mis manos, cuántas historias caben metidas en 21 gramos. Tú que tan lejos y a la vez más cerca, tú que tan lejos y a la vez más cerca. Que mi propia vena yugular me nagle cura verusame me nagle de nulgahir vale una vale una. Mira, yo no tengo tiempo para odiar a Lucifer. Estoy demasiado ocupada amándote a ti un nivel. Mi corazón, que siempre está en una carrera, estoy cortando las flores antes.
desde que sea primavera, donde hasta los caballos los míos bien amarrados, la sangre y la suerte aquí mano arrastrado. Tu amor es una avalancha, cae por su propio peso al existir. Ayer, hoy y mañana, la nieve en la que me quiero hundir. Menagle, cura, merúsame. Menagle, en el cajín. Vale, una. Vale,
seven heavens, big deal. I want to see the eighth heaven, tenth heaven, thousandth heaven. You know, it's like break on through the other side. It's just like going through one door. One door isn't enough. A million doors aren't enough.
PS, quelle fin de morceau. Une seule porte, ça sera pas suffisant. Des millions de portes, ce sera pas suffisant. Il faudra toujours un paradis après le paradis.